Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Grâce Hamzati Massanzi.
À la une de l'actualité, le trafic entre Goma et Bukavu coupé à partir du centre de Chacha par les combattants du M23 depuis le week-end à la suite des intenses combats qui les opposent aux forces armées de la RDC dans la province du Nord Kivu. Les engagements de la MONUSCO du Sud Kivu, la société civile dans sa diversité prend acte mais exprime la crainte quant à l'avenir de la situation sécuritaire après le départ de la mission onusienne de cette province. L'invité de ce journal est le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba nous parle des dispositions pour lutter contre les embouteillages devenus fréquents sur les routes de Kinshasa ces derniers temps, même en dehors des heures de pointe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, où la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu, est coupée à partir du centre de Chacha depuis samedi en fin de la journée par les combattants du M23. Chacha est située à 9 km de la cité de Sake, groupement Mufuni-Shanga. Cette rupture est consécutive aux intenses combats qui ont opposé les Wazalendo et FARDC contre le M23. Cette route d'importance économique est stratégique. Elle relie la cité de Sake à Minova, un grand marché de la région qui alimente la ville de Goma et ses environs. Denis Lukeso.
Le trafic est coupé entre Goma, Sake et Minova après la prise de Chacha hier par les rebelles. En conséquence, la cité de Sake et la ville de Goma sont coupées de tout approvisionnement en produits vivriers en provenance de Minova et Bweremana. Le M23 a lancé l'attaque à partir des collines d'Engingwe et de Muremure, deux collines stratégiques qu'il occupe depuis deux jours maintenant. Sur place à Chacha, les rebelles auraient érigé une barrière en plein centre de ces villages. La société civile de Masisi donne un bilan provisoire de deux civils tués et 8 blessés ainsi que les déplacements massifs des populations. Des malades de l'hôpital de Kiroche ont abandonné leur lit d'hospitalisation pour se mettre à l'abri, témoigne une habitante de Kiroche en fuite. Pendant ce temps, c'est la psychose qui empare les habitants de Minova en territoire décalé au sud Kivu. La société civile locale parle d'un afflux de déplacés des villages Nguba, Kiroche, Kiluku, Chacha, Kituva, Bweremana, Kihindo, fuyant les combats, alors que d'autres déplacés ont pris la direction de Sake. C'est depuis le début de cette semaine que les affrontements se sont intensifiés dans les territoires du Masisi, causant plusieurs dégâts humains et matériels. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
En même temps, la synergie pour la lutte anti-mine, SLAM, regrette des morts enregistrées dans la zone où se déroulent les combats. SLAM affirme avoir enregistré une vingtaine de morts causées par l'explosion des engins explosifs, notamment dans les territoires des Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Pour limiter les dégâts humains causés par ces engins de guerre, la SLAM appelle la population vivant dans et autour de ces zones de combat à faire attention à la présence de ces explosifs. Elle invite à alerter les autorités en cas de la découverte d'un engin. On écoute Marion Gavo, coordonnateur national de la SLAM.
À Sake, nous venons de perdre deux fillettes de 9 ans et de 11 ans dans l'explosion. À Mouesso, 19 personnes, 27 blessées. En Tamugenga, une fille qui est blessée. La SLAM demande à toute la population qui se trouve aux alentours des zones de combat, comme dans le Rutshuru, le Massis, le Nyiragong et la ville de Goma, de faire attention, de ne pas confondre les engins de guerre avec les objets que nous utilisons tous les jours. Un mortier peut ressembler à un pilon. Une grenade peut ressembler à un ananas. Un obus peut ressembler à un poisson. Une mine antipersonnelle peut ressembler à une petite lampe. Donc, nous demandons aujourd'hui aux gens qui sont dans ces zones de combat de ne pas toucher les engins qu'ils ne connaissent pas, mais d'informer l'autorité en place, la police, pour nous informer et que nous puissions venir traiter la munition. Les zones actuellement dangereuses sont les Kiroche, Kimoka, Nyiragongo, tous les Kibaya, les Bweremana, toute la zone de Kamuron, Zasake, où se passent les combats.
Et à la suite de ces bombardements au Nord Kivu, l'ONG internationale Médecins sans frontières, basée à Mouesso, dans le territoire des Masisi, relocalise temporairement une partie de son personnel médical vers Kichanga, à 12 km de Mouesso. Selon cette ONG, cette décision est prise après l'explosion vendredi d'une bombe qui est tombée sans faire des victimes à 3 mètres de sa base de Mouesso. MSF rassure toutefois qu'une équipe restreinte de son staff, en collaboration avec le bureau central de la zone de santé, continue d'apporter le soutien à la population qui fait face à une situation humanitaire et sanitaire très difficile à l'hôpital général de Mouesso et dans les centres de santé. On écoute Madame Tchalar Taïroglou, coordonnatrice des projets de MSF à Mouesso.
MSF continue toujours d'appuyer les activités à l'hôpital Moïso et les centres de santé appuyés, ça veut dire Kashuga, Kalembe, Katsiro, Bibé, Empathy et les activités urgences à Mokoto. Ils sont tous en cours. Et donc, nous continuons la collaboration étroite avec nos collègues du ministère de la Santé, BCZ, pour la continuation de ces activités-là. Néanmoins, on a délocalisé une grande partie de notre staff à Kichanga, mais nous avons aussi une présence toujours à Moïso. La raison de cette décision, c'est que hier, il y a une bombe qui a explosé 2 mètres de notre base. Et dans ces conditions-là, où le droit international humanitaire n'est pas respecté et les bases humanitaires ou les espaces civils n'ont pas été respectés, nous n'avons pas jugé opportun de rester. Pour l'instant, nous relisons à Kichanga pour observer la situation et pour voir quand est-ce qu'on peut retourner en Moïso. Et pendant ce temps-là, les activités continuent.
Notez que MSF appuie plusieurs structures de santé dans le Massissi depuis 2008. De leur côté, les journalistes des Massissi plaident pour le respect de la liberté de la presse dans cette région en proie aux conflits armés, surtout en cette période où la population a besoin d'être informée sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie de la province. Félix Baloumehangi, directeur général de la radio communautaire des Moïso, revient ici sur leurs conditions professionnelles dans la région des Massissi en cette période très tendue.
Ce sont des conditions très précaires. La sécurité n'est pas rassurée. Du fait que la zone est sous contrôle, l'IM23, on a peur soit de partager certaines informations qui peuvent coûter notre vie. Mais nous sommes obligés de rester dans la zone et d'informer notre population. Comme un média communautaire, une église au milieu du village. Et là, nous sommes entrés et jouer avec la déontologie, surtout comment on doit se comporter pendant la période sensible des conflits armés dans la zone. On est seul dans la zone. C'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler, malgré les conditions très difficiles, malgré les sécurités. C'est que nous, on peut demander seulement aux partis à de respecter la liberté de la presse dans la zone, parce qu'on est en train de travailler au compte de la population, juste pour informer la population. Un peuple sans information, c'est un peuple oublié. Que notre sécurité soit garantie.
C'est un dossier signé Denise Loukesso. Et au sud Kivu voisin Pandastan, la société civile dans sa diversité dit prendre acte du désengagement de la MONUSCO de cette province après une vingtaine d'années. Position exprimée le samedi à Bukavu au cours de la rencontre des membres de la société civile avec le secrétaire général adjoint de l'ONU Jean-Pierre Lacroix. La société civile du sud Kivu émet une série de craintes quant à l'avenir de la situation politique, sécuritaire et socio-économique après la MONUSCO dans cette province. Le point avec Emmanuel Elamejoua.
Tout en prenant acte du désengagement de la MONUSCO en cours au sud Kivu, la société civile dit sa gratitude à l'ONU pour tous les efforts consentis en faveur de la paix. Pendant ces temps, devant Jean-Pierre Lacroix, les membres de la société civile émettent des inquiétudes sur l'évolution de la situation après MONUSCO. Ils attirent l'attention de l'ONU sur l'expérience malheureuse de sa mission au Rwanda en 1994. Plus jamais ça, disent-ils. Il est demandé à l'ONU de changer le narratif des crimes et violations massives des droits humains commis en RDC, de mettre fin aux attitudes et discours diplomatiques ambigus de la communauté internationale sur la situation dans l'est de la RDC, cela en prenant des sanctions contre les auteurs des crimes graves par un tribunal pénal international pour la RDC. La société civile du Sud Kivu s'interroge sur sa part à elle après des décennies de collaboration avec la MONUSCO. À ce sujet, elle appelle l'ONU à concrétiser son appui au projet de construction de la maison du citoyen dont les travaux ont débuté à Bukavu. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Direction la province du Kwilu, la population du territoire de Massimanimba demande à la CENI de revoir son calendrier électoral publié récemment concernant la tenue des élections législatives à Massimanimba au Kwilu et à Yakoma au nord Ubangi. Vous le savez, les élections y ont été annulées pour notamment fraude électorale, bourrage d'urne et vandalisme. Cette population souhaite que ces scrutins aient lieu avant l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres des bureaux des assemblées provinciales. C'est pour permettre aux élus de participer aussi au vote de ces derniers. On écoute un extrait du mémo des forces vives de Massimanimba, lu à l'occasion et choisi ici par Irène Bomaluzolo.
Nous, forces vives du territoire de Massimanimba, province du Pilou, remercions la CENI pour avoir publié les calendriers des scrutins pour Massimanimba et Yakoma. Demandons à Monsieur le Président de la CENI de revoir son calendrier avant l'élection de sénateurs, gouverneurs, membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il est inacceptable qu'on puisse priver la population de Massimanimba d'élire leur gouverneur, leur sénateur et leurs membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Quand bien même ces élections sont à suffrage universel en direct. Donc, nos députés élus ne peuvent pas être privés de ces droits, étant donné que Massimanimba scelle à 8 sièges. Ces 8 voix vont fortement impacter à l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment ils seront dirigés par un gouverneur qui n'ont pas élu? Et comment ils seront représentés par des sénateurs qui n'ont pas élu? Raison pour laquelle nous demandons au président de la CENI de revoir les calendriers afin que cela ait lieu après la publication des élections nationales et provinciales de Massimanimba et puis il pourra organiser son élection.
Ici à Kinshasa, prestation de serment ce week-end des magistrats affectés dans les différentes juridictions de la capitale. Samedi, ce sont 31 juges, présidents et 9 conseillers affectés à la cour d'appel de Matete qui ont prêté serment au siège de la cour à la 4e rue Limété. Le vendredi, c'était la prestation de serment des magistrats du ministère public du parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalamu. Au total, 93 substituts parmi eux, 3 anciens magistrats ont renouvelé leur engagement. Et puis, au Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme, Redo, appelle la justice à accélérer l'instruction des dossiers des prévenus pour désengorger la prison de Kakwangura de Butembo. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme basée à Butembo, le retard des traitements des dossiers de plusieurs détenus est à la base du surpeuplement carcéral dans cet établissement pénitentiaire où des cas de décès sont signalés depuis quelques mois. Plusieurs détenus dorment sur le pavé et d'autres souffrent de malnutrition sévère. Mouindo Asivigno, coordonnateur du Redo, plaide également pour la construction d'une nouvelle prison à Butembo. Il est joint par Martial Papi Mukeba.
La question du surpeuplement de la prison centrale de Kakwangura nous préoccupe grandement, puisque aujourd'hui l'effectif a sensiblement augmenté, 1019 détenus, alors que cette maison de correction a une capacité de 200 personnes. Parmi ces détenus, 25 sont des femmes avec 4 nourrissons, une dizaine de malades et 200 vessus mal nourris. Parmi les 1019 détenus, seulement 112 sont condamnés, parmi eux des femmes. Nos recommandations est que les parquets civils, militaires ainsi que les tribunaux accélèrent l'instruction des dossiers avec prévenus. Mais aussi les parquets devront libérer les détenus poursuivis pour les faits moins graves. La grande solution est de construire une prison spatiale à ville de Butembo pour une bonne garde des détenus.
Ce journal se poursuit. Cette fois-ci, 800 ménages de la ville de Mbandaka, parmi les plus vulnérables qui ont été touchés par les inondations, vont recevoir l'assistance du gouvernement central. Cette annonce est faite par le directeur général de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes qui est arrivé au chef-lieu de la province de l'Équateur hier dimanche. Le DG de cette structure du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale explique qu'il y a 3 provinces pilotes qui ont été désignées parmi les 15 touchées dans le cadre de cette assistance. Il s'agit de la province de Kinshasa, du Kasaï central et de l'Équateur. Raymond Bongole Efoya précise que cette action est une recommandation du chef de l'État au cours d'un conseil des ministres. On l'écoute.
Comme vous le savez, lors du dernier conseil de ministre, son excellence Félix Antoine Tshilombo, le chef de l'État, avait instruit le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale d'assister les victimes des inondations qui ont secoué 15 provinces de la République démocratique du Congo. On a d'abord retenu 3 provinces prioritaires, la ville de Kinshasa, la ville de Kananga et la ville de Mbandaka. La semaine passée, nous avons assisté 1000 ménages affectés à Kinshasa, plus principalement le site Force Navale, le site Maman Zévé. Il y a une équipe qui est allée à Kananga pour assister les victimes des glissements de terrain qui ont eu lieu à Kananga. Et aujourd'hui, nous sommes en Mbandaka pour assister le ménage le plus vulnérable qui ont été secoués par les inondations de Mbandaka. Donc, dans un premier temps, nous allons assister 800 ménages que nous allons donner des kits d'urgence. Et après le passage de l'équipe d'évaluation multisectorielle qui viendra en Mbandaka la semaine prochaine, on verra comment on peut continuer pour mener les activités de résilience.
Et puis, c'est ce lundi 5 février que s'ouvre pour 3 jours à Cape Town, en Afrique du Sud, la 30e édition du forum Indaba Mining sous le thème « Adopter le pouvoir des bouleversements positifs, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique ». Le premier ministre Samalou Kondé est à la tête d'une forte délégation congolaise. Elle est notamment composée de la ministre des Mines, des mandataires des entreprises publiques, des membres de l'AFEC, des gouverneurs ainsi que des Miguel Cachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Avec toutes les rencontres bilatérales prévues, la conférence Indaba réunit chaque année quelques 800 multinationales et environ 40 délégations gouvernementales et paragouvernementales. Objectif, susciter le changement et stimuler les investissements dans les secteurs miniers et celui de l'énergie.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a pilonné la bande de Gaza où des dizaines de personnes ont été tuées hier. Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre la ville surpeuplée de Rafah qui abrite plus d'un million de déplacés palestiniens. Le Hamas dit avoir besoin de plus de temps pour étudier une proposition d'une seconde trêve dans sa guerre avec Israël.
L'invité.
Les embouteillages sont de plus en plus fréquents sur les routes de Kinshasa et cela même en dehors des heures de pointe. Pourquoi ce phénomène et comment faire pour y remédier? Radio Kapi reçoit aujourd'hui le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba est interrogé par Blaise Shindani Kambala.
Bonjour général Mbula Kilimbalimba Blaise.
Bonjour monsieur le journaliste.
Général, nous devons commencer par vous dire qu'à votre arrivée, une accalmie s'est observée sur les routes de Kinshasa. Les embouteillages semblaient être maîtrisés par votre présence sur certaines routes. Qu'en est-il aujourd'hui?
Les embouteillages ne semblaient pas être maîtrisés. Les embouteillages étaient maîtrisés avec notre arrivée. Nous l'avons fait en appliquant des mesures sacro-saintes prévues dans les codes de la route. Aujourd'hui, il y a des évidences. On peut croire, oui, on peut reconnaître qu'il y a des embouteillages à certains endroits, mais pas comme ceux d'hier. Parce que il y avait des bouchons infernales. Qui ne voit pas comment pour quitter Sonaïdo, ne fût-ce que passer, quand vous allez en ville, à l'heure de pointe, quitter Sonaïdo pour passer Saint-Doué, Triomphal, prendre Willery du côté stade, jusqu'à arriver à Penemeles. Je venais à Kinshasa, je voyais. C'était des bouchons et bouchons incroyables, au point que les gens pouvaient arriver au travail à 11h, 11h30 midi. Et ça n'avait pas d'heure, jusqu'à midi, à tout moment. Mais aujourd'hui, il faut compter les heures de pointe pour parler des embouteillages, ce qui n'est que normal lorsque tout le monde, au même moment, emprunte la voie publique qui parfois ne supporte pas le nombre des usagers. Et vous allez trouver des nids de poules sur la voie publique, même si vous aviez l'opportunité de rouler avec ces nids de poules, vous êtes vous-même obligé de ralentir. Parce que si vous allez trop, vous allez même endommager votre véhicule à certains endroits, comme à l'école logistique et partout où vous connaissez.
Et alors, par où avez-vous commencé, général?
Nous avons commencé par remettre les policiers au travail, c'est-à-dire leur retirer tout ce qui pouvait les distraire pendant qu'ils exercent. Et tout ce qui pouvait les distraire, c'était l'ivresse pendant les heures de service, c'était la pratique des mains tendues et des tracasseries de tout genre. Nous avons stoppé cela. S'il y en a encore, on me signale que ça refait s'y face quelque part sur Willery et on a pris des dispositions avec mes services pour mettre hors d'état de nuire tout policier qui se comporterait mal. Là, c'est pour régler ou gérer les embouteillages. Autre chose, c'est le comportement des usagers de la route qui se refusent de voir même les exemples d'autres pays. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y a pas de roulage sur terrain. Ils se dirigent par les codes de la route. Quand on respecte les précis des codes de la route, tu n'as pas besoin de roulage sur terrain. Tu n'en as pas besoin. Beaucoup d'officiels, beaucoup de personnes qui pensaient que c'était de leur droit, nous ont rencontrés sur leur chemin et nous les avons retournés. Ils ont pris le sens normal. Non seulement ça, ils ont compris que, en tout cas, s'ils le faisaient, mais quand ils se rencontreraient avec la police, ils n'auront pas la tâche facile. Ça, au moins, nous sommes en train de faire. Et avec le temps, le phénomène nous allons parler le même langage avec tous les usagers de la route. C'est un comportement qui a duré longtemps. Nous sommes en train de le redresser et le temps nous donnera raison. Ça demande du temps.
Il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne le nombre de policiers de roulage par carrefour. Par exemple, la semaine passée, de Tombalbaï au camp de Fongola, j'ai compté 21 policiers de roulage. Mais arrivé au rond-point Willery, aucun policier de roulage alors que la circulation est intense à cet endroit-là.
Le problème, c'est pas celui-là, le nombre de policiers là-bas et de l'autre côté. Peut-être à Willery, ceux qui étaient là ont déserté leur poste. Ça, c'est un. Donc, plusieurs facteurs peuvent justifier ça. Mais quand on tombe sur quelqu'un qui est là où il ne doit pas être placé, si vous tournez derrière nous, il est au cachot pour violation des consignes. D'autres sont à l'auditorat pour violation des consignes. Donc, ce sont des cas qui, quand vous rencontrez, vous trouvez une anomalie. La police, c'est un service public ouvert à tout le monde. Vous nous appelez, vous nous contactez, notre call center fonctionne. Toutes les anomalies que vous constatez, vous portez à notre connaissance. Nous prenons les dispositions qui s'imposent.
Général Mboula Kilimbalimba Blaise, merci beaucoup.
Merci, je vous remercie.
Notre invité, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, s'entretenait avec Blaise Shindani Kambala. Par ici s'achève ce radio-journal coordonné par Noëlla Luzituka Bambi. Polydor Basunga a assuré la mise en onde. Ce journal est à réécouter sur www.radiokapi.net. Merci et bonne suite de la matinale avec Jean-Marc Ematoa Kimofelele, Dijano.